une croix sur le parfum, car avec les masques, vous avez l'impression de ne plus sentir ou vous sentir. Vous allez voir que le parfum a joué un grand rôle en temps d'épidémie et que vous pouvez encore en porter, vous verrez pourquoi. Et puis, vous allez porter un autre masque libérateur et plonger à la découverte des cachalots, ces super prédateurs qui ont des super secrets à partager avec vous. Bonjour, c'est Minute Papillon, le magazine de culture générale qui prend le temps de se poser pour vous. C'est tout nouveau, c'est du lundi au vendredi de 14h à 15h sur France Bleu. Tout de suite, on attaque fort, Louise attaque ton invitation sur France Bleu.
J'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Tu sais, j'ai confondu avec celle qui sourit pas, mais celle qui est belle, bien entendu. Et qui dit belle dit pour moi, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, je suis pas un mec sympa. Et je merde tout ça, tu sais, j'ai pas confiance en moi, tu sais, j'ai pas d'espérance. Et je merde tout ça. Si tu veux, on parle de toi. Si tu veux, on parle de moi. Parlons de ta future vengeance que t'auras, toi, sur moi. Disons, entrecoupé de silence, qu'on est bien seul pour une fois, qu'on est bien parti pour une danse. Ça ira pas plus loin, tu vois. J'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû me gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Si on trace un trait, un point dans notre espace, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Tu sais, j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Tu sais, j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Tu sais, j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison.
Louise attaque ton invitation sur France Bleu. Et puis, si on peut passer des invitations, eh bien, moi, je vous invite à écouter C'est déjà demain, Eglantine Émeillé, de 15 à 16h sur France Bleu avec ses invités. Le magazine pour vivre mieux votre quotidien. Et on en a besoin.
Minute Papillon sur France Bleu jusqu'à 15h.
Les cachalots, ces super prédateurs, vous les croisez peut-être quand vous regardez des documentaires animaliers, dans les films, dans les bandes dessinées. Ils peuvent vous effrayer parce qu'on dit que ce sont des super prédateurs. Et moi, j'ai un super plongeur qui les connaît, qui a l'habitude de vivre avec eux. Bonjour François Sarano.
Bonjour Sidonie Bonnec.
Bonjour François, ravi de vous accueillir. Ces cachalots, vous les connaissez, vous êtes plongeur, océanographe, ancien directeur scientifique des missions Calypso avec le commandant Cousteau. Et depuis des années, vous plongez avec eux, vous êtes même l'intime d'une famille. Alors avant de nous les présenter, parce que c'est ce luxe quand on est intime d'une famille, évidemment on peut faire les présentations. À quoi ça ressemble un cachalot ?
À quoi ça ressemble un cachalot ?
Je veux les mensurations, vous voyez ?
Ça ressemble à rien. Ah oui ? Ça ressemble à rien, c'est énorme, ça peut faire 20 mètres, 50 tonnes, ça a une tête qui est un tiers de la taille du corps, toute globuleuse, on voit à peine les yeux, bref, ça ressemble à rien, mais quand tout d'un coup ça nage, quand tout d'un coup ça se met à virevolter, ces 50 tonnes, ces 50 tonnes de légèreté, de délicatesse, de virtuosité, quand tout d'un coup le cachalot s'envole dans l'océan, alors, il est léger comme un papillon et précis comme une hirondelle. C'est la grâce qui l'emporte et on ne peut pas le décrire autrement que lorsqu'il est vivant dans l'eau en train de nager avec les autres.
C'est quoi son eau préférée au cachalot pour le situer un petit peu ?
l'ensemble de l'océan.
Parce Partout, que les dans femelles... Dans tous les océans du monde ?
Oui, dans tous les océans du monde, depuis l'Arctique jusqu'à l'Antarctique. Mais les femelles et les jeunes ont une préférence. L'eau tiède des tropiques, les eaux un petit
oh,
peu...
Oui.
Oui. Alors que les grands mâles, ouais. eux, vont jusque dans les eaux glacées subantarctiques. Ils aiment les 50e hurlant de Kerguelen Crozet, les albatros, les tempêtes, l'eau noire. Et bref, ces cachalots-là, oui, ne redoutent pas les eaux les plus terribles du monde.
François Sarano, on dit que les cachalots sont des super prédateurs. Évidemment, à nous, petits humains un peu effrayés, on ne connaît pas toujours bien notre nature, ça nous fait peur. C'est quoi un super prédateur ?
Ah, un super prédateur, c'est souvent un qualificatif qui est donné par les humains. Le cachalot mange de grosses proies, des calmars.
Il a
peut
faim.
Manger, oui, et il peut manger 450 kg de calmars par jour. Mais il faut dire que ce sont des animaux colossaux. Hein. Et il peut manger de très gros calmars, dont le calmar géant, qui peut faire 15 mètres de long, et le calmar colossal, qui peut peser jusqu'à 400 kg, et dont les ventouses sont gros comme des assiettes. Et avait armé de griffes terribles, trois grandes griffes comme des couteaux qui lacèrent la tête du cachalot lorsque celui-ci les engloutit tout bonnement.
Super prédateur, François Sarano, ça ne veut pas dire super dangereux pour l'être humain. Parce qu'on a toujours la frousse, nous les humains, un petit peu de tout,
oui,
surtout de la nature.
On a la frousse de la nature parce qu'on la méconnaît. Mais lorsque tout d'un coup, on la rencontre, alors on s'aperçoit à la fois de sa magie et de sa délicatesse. Parce que les cachalots sont des êtres doux. Délicats. Ils aiment se caresser quand on les retrouve et qu'ils sont en groupe.
Mais comment ça, ils se caressent ?
Ils se caressent. Ils
Entre
ont
eux
une peau extrêmement sensible et ils aiment rouler les uns sur les autres. Pendant des heures, chaque jour, ils...
Ce sont nos câlins, nous ?
Oui, et parfois même des gros câlins, oui,
ouais.
oui. Mais tout ça, et encore une fois, c'est ce contraste formidable entre l'incroyable force de ces titans et puis tout d'un coup, ces êtres délicats, lents, et qui aiment encore une fois se caresser, parfois se mordiller. Tout est délicatesse chez le cachalot.
François Sarano, vous avez l'habitude de plonger et de retrouver une famille régulièrement dans l'océan. Quelle est cette famille et elle est où ?
Alors, nous retrouvons avec mes amis de Longitude 181 et de la MMCO cette famille à l'ouest de l'île Maurice. Et c'est une grande famille, c'est un clan qui compte 17 femelles adultes et 11 jeunes que nous avons vus naître et que nous suivons maintenant depuis une dizaine d'années.
Mais où sont les mâles ?
Où sont les grands mâles ? Ah, voilà la question. Alors, il faut savoir que chez les cachalots, ouais. la structure est matriarcale et c'est matrilinéaire. Seules les femelles restent toujours au même endroit avec leurs jeunes. Mais à maturité sexuelle, les jeunes mâles vont vivre leur vie et ne reviendront jamais dans le clan dont ils sont issus. Ils ne reverront jamais leur mère. En revanche, ils iront vers d'autres clans, à la fois pour trouver une belle, se reproduire, mais encore, et c'est ce que nous avons découvert, c'est que les cachalots grands mâles reviennent régulièrement dans les clans où ils ont des descendants. Et là, ils ne viennent pas simplement pour la reproduction. Non, non, non. Ils viennent raconter des histoires. Et nous avons vu ces grands mâles, en particulier un magnifique qui s'appelle Jonas et qui est le père à la fois d'une de nos mères et d'un tout petit, qui est là depuis 20 ans au moins, qui revient régulièrement. Lorsqu'il arrive, tout le monde l'accueille. Tout le monde, tous les cachalots se rassemblent. Et même les jeunes mâles, presque adolescents, viennent le caresser, se frotter à lui et l'écouter. Et on le voit se dresser alors et faire... Et tous les petits se rassemblent et se posent sur sa tête et donc l'écoutent. Cela veut dire, et c'est très important, que s'il n'est pas là, s'il est avec des jeunes, il n'est pas là pour se reproduire avec eux, il vient donc pour des raisons sociales. Cela veut dire qu'il transmet et qu'il a un rôle prépondérant dans la structure des cachalots.
Et c'est ce que vous découvrez, François Sarano, en plongeant régulièrement avec eux, en prenant le temps de vous faire accepter. D'ailleurs, vous allez nous expliquer comment vous vous faites accepter. Et vous avez découvert des choses incroyables, vous allez nous le raconter dans un instant, dans Minute Papillon, que les cachalots ont aussi des nounous. Ça alors, allez, avant on écoute Calvin Harris et The Weeknd sur France Bleu avec Over Now.
I don't really care if your tears fall down your face. You know you play the victim every time. I know you're getting turns every night. Again, your girls ain't trying to get me off your mind. The same ones who be hitting on my line. They're not your friends. I need you to know that we ain't a never gonna go back. This time it got so bad. It's best for me, it's best for you. I need you to know that. Try to love you but I force that. All signs we ignore that. And it's not the same. Cause it's over now. Oh yeah. Don't get too confused when it's over now. Oh yeah. No coming back around. Even nothing left to lose. Girl, it's over now. Oh. Yeah. So I take this just to forget you. I don't regret those memories. And I swear I'm not trying to test. I wish you the best, but I'm like you need. But you always need that attention. Feeding the past, but we don't speak. But we're both with somebody else, so please stop calling me. I need you to know that. Okay. We ain't never gonna go back. Okay. This time it got so bad. It's not the same. Cause it's over now.
S'associe le DJ anglais Calvin Harris et le chanteur canadien The Weeknd, ça donne Over Now sur France Bleu.
France Bleu, Minute Papillon.
Voilà Ego, Ego le cachalot. Attention aux pattes, attention aux carreaux. Bien dans sa peau de cachalot. Malgré ses deux tonnes et son petit cerveau.
Vous êtes 20 milieux sous les mers, vous plongez avec des géants. Les cachalots, et c'est le plongeur océanographe François Sarano qui nous guide. Ego le cachalot, cette comptine de David Delabroix, cette chanson. Il a un gros ego, le cachalot?
Il a surtout le plus gros cerveau du monde.
C'est vrai.
Et ce cerveau-là, il l'emploie très bien. Il est capable de résoudre des problèmes, il est capable de jouer pour aller inventer de nouvelles cultures qu'il transmet au sein de son clan. Non, ne nous y trompons pas. Non seulement le cachalot a un gros cerveau, il a une intelligence différente de la nôtre, et elle est formidable. Et cela montre que nous ne sommes pas les seuls au monde à être des êtres intelligents sur cette planète.
Vous nous disiez, François Sarano, que c'est incroyable. Ces cachalots sont des géants, des super prédateurs. Et ils sont d'une douceur et d'une féerie incroyable dans les océans. Ils se frottent les uns aux autres, ils se caressent, ils se câlinent. Et puis, ils élèvent aussi leurs enfants. Les femelles restent vraiment très près des bébés. D'ailleurs, elles accouchent à quelle profondeur et comment, ces femelles cachalots?
Alors, les femelles cachalots, comme nous, accouchent d'un petit qui a besoin de respirer tout de suite, la première respiration. Eh bien, le petit cachalot a besoin de la prendre à l'air libre. Et donc, lorsque sa mère très fatiguée vient d'accoucher, ouais, c'est la nounou qui pousse le petit bébé jusqu'à la surface pour qu'il respire pour la première fois.
Ça, c'est incroyable.
Et dans le clan, ouais, que nous suivons maintenant depuis une dizaine d'années, dans le clan de la matriarche Irène Gueule Tordue, il y a un personnage formidable. C'est justement la nounou, Germine, qui, année après année, a aidé chaque petit à venir respirer pour la première fois, qui, année après année, a surveillé la crèche et protégé jusqu'à 7 petits complètement turbulents.
Elle n'a pas d'enfant elle-même ?
Elle n'a pas d'enfant elle-même.
Un de bébé
mais,
cachalot.
Mais, elle se laisse téter par les petits, bien que vraisemblablement elle n'ait pas de lait. Elle se laisse parfois téter par 1, 2 petits à la fois, et elle s'est laissée téter, et elle a aidé chacun des petits que nous suivons encore une fois maintenant depuis leur naissance. 11. En revanche, si Germine, nounou, plutôt babysitter, n'a pas de lait, il y a, chez les cachalots et dans le même clan, des nounous allaitantes. Mais elle ne s'occupe pas de tous les petits. Elle ne s'occupe que d'un seul petit, qui n'est pas le sien évidemment, mais d'une autre femelle, lorsque cette autre femelle va chasser dans les abysses les calmars et qu'elle doit laisser en surface son petit dans le grand bleu, où il n'y a nulle part où se cacher, se protéger des prédateurs. Là, elle s'en occupe.
Elle n'a qu'un seul contrat de travail. Voilà.
En gros, oui, c'est nounou. Alors, pour la nounou babysitter, c'est vraiment un contrat de travail. Enfin, un contrat d'élégance.
François Sarano, vous publiez chez Actes Sud Réconcilier les hommes avec la vie sauvage et aussi Sauvons l'océan. Les 10 actions pour réagir, c'est chez Rustica, écrit avec votre femme Véronique Sarano. D'autres questions, j'ai plein d'autres questions dans Minute Papillon sur ces cachalots. Ils ont longtemps été attaqués par les humains. Vous allez nous raconter pourquoi. Est-ce qu'aujourd'hui ils sont protégés et comment? Tout de suite, Divine Idylle, Vanessa Paradis sur France. Vanessa Paradis sur France Bleu, Divine Idylle.
Minute Papillon, on en apprend tous les jours sur France Bleu.
Ami cachalot, traverse les flots, ami cachalot, traverse les flots.
On vous raconte la vie secrète des cachalots avec le plongeur océanographe François Sarano. Vous êtes cofondateur de l'association Longitude 181 qui protège les océans. Alors dans les symphonies aquatiques, on dit amis cachalots. On n'a pas toujours chanté ça sur la Terre.
Ah non, on n'a pas toujours chanté ça. On a d'abord chanté cachalot ressources, cachalot graisse, cachalot. Il a dans le melon quelque chose qui s'appelle le spermacétique, qui est une cire extrêmement fine. Et on a massacré les cachalots pour utiliser cette cire pour lubrifier nos mécaniques. C'est inimaginable.
C'est quoi le melon du cachalot ?
Le melon, c'est cette énorme avancée sur la tête qui, encore une fois, fait un tiers de la taille du cachalot et qui est riche de cette huile si fine qu'elle lui a presque valu d'être massacrée jusqu'au dernier. Et il a fallu attendre 1980, alors qu'on en massacrait 30 000 par an, pour que, enfin, raisonnable, les chasseurs s'arrêtent de massacrer les cachalots. Et ceux que nous rencontrons aujourd'hui sont les survivants de ce grand massacre. Heureusement que nous avons fait ça. Parce que quel bonheur de les rencontrer. Quel bonheur. Nous avons parmi nos cachalots un arrière-grand-père qui a dû naître dans les années 40 et qui a connu ce grand massacre. Et cet arrière-grand-père qui, grâce à lui, nous a donné la petite Lana, qui est née dans la nuit du 20 au 21 février 2019, ouais. Et qui est la fille de Irène Gueule-Tordu et de Noé. Irène Gueule-Tordu, c'est la matriarche. C'est donc la demi-sœur de Arthur, etc. Nous les connaissons vraiment, individuellement, chacun, leur personnalité. Ce sont des personnes non humaines qui développent comme nous leur propre histoire, leur propre monde.
Et qui ont leur langage, François Sarano. Qu'est-ce qu'on entend, François ?
Alors ici, ce sont les clics qu'émettent les cachalots avec ce fameux melon, ce spermacéti.
Ça résonne dedans, c'est ça ?
Ça résonne dedans, ça fait rebondir dedans sur une sorte de miroir acoustique qui amplifie ce son et qui leur servent à deux choses, ces sons. C'est ça qui est formidable. Ce que nous avons entendu, qui sont des clics d'écolocalisation. Ces clics-là leur servent à voir dans la nuit absolue des profondeurs. Ils voient avec leurs oreilles. Ils envoient ce son, le son rebondit sur l'obstacle et ils écoutent l'écho pour savoir où est cet obstacle ou où est cette proie. Mais le professeur Aveglotin, avec qui on travaille à l'île Maurice, et toute son équipe vient de montrer aujourd'hui que non seulement ils utilisaient clics pour voir dans la nuit, mais ils utilisaient ces clics en coopération pour chasser dans la nuit des profondeurs. Chaque animal émet un clic, tous les autres écoutent l'écho et à tour de rôle, ils émettent les clics pour avoir une vision stéréoscopique du fond. Les cachalots chasse en concertation et cette concertation et la disposition qu'ils ont au fond de l'eau montrent une intelligence exceptionnelle et une stratégie de chasse unique au monde. Et c'est la première fois qu'on le montre. Et puis, ils utilisent aussi ces clics pour communiquer.
Qu'est-ce que ça veut dire en cachalot, ça ?
Cette séquence de clics qu'on appelle une coda.
Ouais.
Cela veut dire « je voudrais des caresses ». Et si la réponse est « alors », les deux cachalots se rapprochent et se font des caresses.
Et si c'est non, ça arrive ?
Ah, les caresses peuvent être assez longues, une minute et demie, pas beaucoup, beaucoup plus. Mais, ce qu'il y a d'intéressant dans cette expression sonore, c'est que nous avons montré, parce que nous pouvons, grâce toujours aux outils d'Hervé Glotin, attribuer à chaque cachalot les sons qu'il émet, eh bien nous pouvons aujourd'hui dire deux choses, bien que cette expression sonore est un appel à caresse et que la réponse est une acceptation à caresse. C'est la première fois au monde qu'on peut associer une expression sonore et un comportement, et aussi que cette expression sonore à 8 clics est un idiome propre au clan de Irène Gueule-Tordu. Dans d'autres régions du monde, ils utiliseront d'autres idiomes, d'autres expressions sonores pour le même comportement. Cela veut dire que nous venons de mettre en lumière la pointe d'une culture, ici d'expression sonore, mais on a vu des stratégies de chasse aussi, hein, et qu'il nous faudra encore beaucoup, beaucoup de temps à passer avec eux pour comprendre véritablement quelle culture très complexe correspond à cette société très complexe où les nounous sont les reines du clan.
Merci beaucoup François Sarano, merci de nous ouvrir les yeux sur cette nature qu'on connaît peu et qu'on connaît de plus en plus grâce à vous. On peut prolonger cette découverte grâce à vos livres « Réconcilier les hommes avec la vie sauvage ». C'est aux éditions Actes Sud et « Sauvons l'océan, les 10 actions pour agir », c'est chez Rustica. Merci beaucoup François Sarano, merci de nous ouvrir les yeux et le cœur sur cette nature qu'il faut protéger et qui est merveilleuse.
Merci Sidonie.
Et puis pour prolonger ce savoir et cette découverte, on peut lire Le retour de Moby Dick chez Actes Sud consacré au cachalot et puis aussi Réconcilier les hommes avec la vie sauvage, toujours aux éditions Actes Sud. Et tout de suite dans Minute Papillon, l'histoire du parfum en temps d'épidémie.
Minute Papillon, le magazine joyeux de la culture sur France Bleu. Toute la semaine, 14h-15h.
Le club des Lève-Tôt sur France Bleu. Au petit matin, un réveil souriant pour vous servir et vous informer.
Bonjour.
Bonjour.
Sophie Scarpula, Thomas Séchier.
Les toutes premières infos, la météo et des cadeaux, c'est le programme du club des Lève-Tôt.
Et le club des Lève-Tôt, ce sont les auditeurs qui en parlent le mieux.
Vous êtes une équipe formidable. Hein. Vous écoutez tous les jours à partir de 5h avec grand plaisir.
Alors on vous attend bien sûr, à demain.
Le club des Lève-Tôt sur France Bleu, du lundi au vendredi, dès 5h.
France Bleu présente le nouvel album de Carla Bruni.
Quelque chose de tendre s'est levé, quelque chose qui nous hante, qui nous...
Carla Bruni, des chansons comme des confidences.
Mais quelle est dans ce quelque chose? C'est la question que tous se posent.
Quel Carla Bruni, nouvel album, un album France Bleu.
Quel est ce bijou?
Toutes les infos sur francebleu.fr.
Chez Leroy Merlin, vous garantir le bon achat, on y travaille tous les jours. Alors quand vous nous dites...
Sur le papier, oui. Certains outils paraissent simples à utiliser. Mais une fois à la maison, c'est une autre paire de manches pour réussir à s'en servir correctement.
On vous répond, chez Leroy Merlin, nous testons chaque année plus de 5000 produits dans les mêmes conditions d'utilisation que chez vous. Comme ça, vous êtes sûr de réussir vos projets sans mauvaise surprise.
Leroy Merlin. Et vos projets vont plus loin.
Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.
Est-ce que vous vous parfumez encore? Bon, c'est vrai qu'avec le port du masque, on a parfois moins envie, on se sent moins bien dans tous les sens du terme. Et pourtant, le parfum a des vertus en temps d'épidémie. Il en a eu et il en a encore, c'est ce qu'on va vous raconter tout de suite dans Minute Papillon, votre nouveau magazine de culture générale sur France Bleu. Un peu de musique, Gauthier, Somebody That I Used To Know sur France Bleu.
Like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember.
Thank you.
d'écouter Somebody That I Used To Know, on ne s'en lasse pas, c'est Gauthier sur France Bleu.
Minute Papillon sur France Bleu, jusqu'à 15h.
Vous l'avez peut-être entendu, le président turc a déclaré que des bouteilles d'eau de Cologne seraient distribuées avec des masques aux personnes âgées de plus de 65 ans. L'eau de Cologne pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Évidemment, ça a excité ma curiosité. Bonjour Elisabeth de Feydeau.
Bonjour Sidonie.
Ravie de vous accueillir dans Minute Papillon. Vous êtes historienne, experte du parfum. C'est vrai que l'eau de Cologne a des vertus, comme le préconise le président turc?
Mais bien sûr, quand l'eau de Cologne a été créée en 1695 à peu près, donc à la fin du XVIIe siècle, en Italie, par un Italien, elle s'appelait l'aqua mirabilis, c'est-à-dire l'eau admirable ou l'eau des miracles. Et elle a été approuvée très rapidement par la faculté de médecine de Cologne parce qu'elle contenait 18 plantes officinales qui étaient capables de tout combattre, aussi bien la peste que les problèmes de peau, enfin énormément de maux. Et en l'occurrence, pour l'histoire du coronavirus, c'est que sa forte concentration en alcool fait solvant, si vous voulez, et permet de s'attaquer à l'étoffe virale.
Mais elle s'utilise voilà. Comment cette eau de Cologne, alors dans ce cas-là, Elisabeth de Feydeau?
Alors, à l'époque, on la buvait. On s'en frictionnait, on avait même au 19e siècle des injections d'eau de Cologne, et on la mettait dans l'eau du bain pour purifier l'eau, on se la frictionnait directement sur le corps, d'ailleurs Roger Gallet avait imaginé un slogan dans les années 60, une bonne friction, une bonne journée, mais aujourd'hui, oui, on s'en sert un peu comme un gel hydroalcoolique. Rappelez-vous, au tout début, on avait un manque de gel, hein, il n'y avait plus assez de gel. Donc c'était une bonne idée, par exemple, de se frictionner les mains avec cette eau de Cologne. En plus, c'est merveilleux, quoi. C'est une belle odeur.
Justement, cette odeur, elle est composée par quelles plantes? Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau de Cologne, Elisabeth de Feydeau?
Alors, on disait qu'il y avait 18 plantes officinales, mais surtout, c'est que l'eau de Cologne est à l'origine d'une grande famille olfactive qui s'appelle la famille des Hespéridés. Les Hespéridés, c'est en référence au jardin des Hespérides, donc c'est tous les citrus, tous ces fruits à écorce, donc aussi bien l'orange, le citron, la bergamote, l'imette, etc. Donc elle avait en elle, elle a toujours d'ailleurs cette note très hespéridée, très à la fois citron, bergamote, limette, cédra, très fraîche, mais aussi une note agreste avec toutes ces plantes qui sont bonnes pour la santé. On le sait très bien, hein, le thym, le romarin, la lavande, ce sont des plantes qui ont de toutes les manières des vertus.
Pourquoi on l'appelle l'eau de Cologne?
Alors l'eau de Cologne, parce qu'en fait, alors à l'origine c'était quand même l'eau des miracles, hein, l'aqua admirabilis ou l'eau admirable, tout simplement parce que cet Italien est parti, alors il y a plein de légendes autour de ça, on ne sait pas si c'est une histoire d'amour avec une religieuse du couvent voisin qui lui aurait donné cette recette, ou si c'est tout simplement parce que c'était un Italien qui allait chercher la fortune à Cologne, et on sait que Cologne à cette époque était une ville allemande au carrefour en fait du commerce, qui était en plus une ville franche, qui était aussi une ville de distillateurs, donc qui avait beaucoup de d'atouts pour les entrepreneurs. Et du coup, il s'établit là-bas et il fabrique cette aqua admirabilis de Cologne, qui donc reçoit l'approbation de la faculté de médecine. Et quand cette aqua admirabilis arrive à la cour de Versailles, elle est rebaptisée l'eau de Cologne par rapport à sa provenance. Donc c'est comme ça qu'elle s'est appelée ainsi. Et la ville de Cologne donne un label, si vous voulez, à cette préparation qui est connue de plusieurs distillateurs, puisque c'est approuvé par la faculté de médecine. Donc il y a une recette.
Vous disiez tout à l'heure, elle était... Ah oui, il y a une recette.
Et voilà, et du coup, plusieurs distillateurs la font. C'est comme ça qu'ensuite, on a en 1792 la 4711 de Mullens. On va avoir ensuite en France l'eau de Cologne impériale de Guerlain. Voilà, tous les parfumeurs pratiquement ont leur eau de Cologne.
Vous disiez, Elisabeth de Feydeau, que c'était une eau miraculeuse, elle permettait de soigner la peste. Bien sûr, c'est ce qu'on imaginait.
Oui.
Elle ne permettait pas évidemment de la soigner. C'était
non,
ça.
Bien sûr que non, mais elle devait faire
on
du
imaginait.
Bien, comme aujourd'hui le président turc qui nous prétend que c'est une bonne arme contre le coronavirus. Si vous voulez.
Le parfum, vous connaissez ça parfaitement et c'est ça qui est passionnant. Elisabeth de Feydeau, vous publiez La Grande Histoire du Parfum chez Larousse. Très très beau livre, mais aussi on peut suivre votre compte Instagram Elisabeth Feydeau avec cette série parfaite et passionnante sur les vertus du parfum. Justement, ce parfum qui soigne, c'est vrai que c'est une très vieille idée. On va partir sentir des parfums oubliés de l'Égypte ancienne et de la Rome antique. Quel voyage! Allez, tout de suite on écoute Le Temps est bon sur France Bleu. Bon entendeur.
Le temps est bon, le suis tendre, 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 tendre. Pour mes amants, je suis la fleur dans leur cerveau.
Ça fait du bien d'écouter cette chanson, cette ritournelle. Le temps est bon sur France Bleu. Bon entendeur.
France Bleu, Minute Papillon.
Au XVIIIe siècle, vivait en France un homme qui comptait parmi les personnages les plus doués et les plus connus de son époque. Son unique ambition se bornait au royaume évanescent des senteurs. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille.
Je crée un parfum.
Chaque parfum contient trois accords qui nécessitent 12 notes en tout. Mais on ne peut créer un parfum réellement original qu'en y ajoutant une note supplémentaire.
Extrait du film Le Parfum, adapté du roman de Patrick Suskind. Elisabeth de Fédon raconte l'histoire de ce parfum, des vertus du parfum. Vous êtes historienne experte du parfum. Et ce parfum que l'on crée dès l'Égypte ancienne, comment on se parfumait? C'était quoi le parfum? Quelle place il tenait dans cette société?
Alors, sous l'Égypte ancienne, le parfum, si vous voulez, c'est pas du tout ce que nous on a en tête. Hein. L'origine, c'est vraiment l'offrande aux dieux. D'ailleurs, le parfum à l'époque s'appelle sonter, ce qui veut dire diviniser. Et le parfum, c'est réservé aux dieux et au pharaon qui était un dieu sur terre. Donc, le parfum a une vocation religieuse, sacrée, mais aussi thérapeutique. Et hygiénique plus largement, ouais. Bien sûr. Parce que les premiers parfumeurs sont les prêtres qui étaient aussi les premiers médecins. Donc, ils préparaient des parfums sacerdotes, c'est-à-dire des parfums religieux, à l'entrée des temples. Et ils avaient remarqué qu'en préparant ces parfums, ils avaient certains effets physiologiques. Et c'est ainsi, par exemple, qu'un des premiers parfums dont on a la recette encore aujourd'hui, qui s'appelle le kifi, ce qui littéralement veut dire le parfum deux fois bon, parce qu'il était bon pour les dieux et bon pour les hommes, eh bien, il avait des vertus calmantes, apaisantes, favoriser le sommeil, protéger d'un certain nombre de maladies.
On le sentait, ce parfum, on le buvait à l'époque?
Alors oui, on le buvait, on s'en frictionnait, on le mélangeait à des huiles, on le brûlait, surtout, essentiellement, et on le frictionnait.
Il y avait, voilà. Et alors ces parfums, c'était quelle plante, par exemple? Ça venait de quelle plante?
Alors, le Kifi, c'était une association de résines, essentiellement. Les résines, c'est-à-dire, en fait, tout ce qui coule de l'arbre, hein, qui se solidifie ensuite. Donc, la myrrhe, l'encens. Mais il y avait également des notes de benjoin. Il y avait aussi des bois, bien sûr, des épices, quelques fleurs. Tout ça était en macération dans de l'huile, du vin de palme. Et les prêtres, donc, mettaient ensuite... au soleil, alors au soleil, ça peut nous paraître bizarre, mais en Égypte, faites l'essai encore aujourd'hui, hein, 50 degrés quelquefois en plein soleil, ça avait une action de presque de cuisson, et du coup, ce mélange se solidifiait, devenait un petit peu, entre solide et liquide, et ils en fabriquaient des boulettes qui étaient mises donc en fumigation, ou alors étaient mélangées à des boissons, ou à de l'huile. Et c'est ainsi qu'on utilisait donc le kifi de plusieurs manières. Et dans les temples, il était brûlé le soir. C'est pour ça qu'on disait qu'il favorisait le sommeil.
Elisabeth
pour apaiser les dieux. Déjà, on est vers quelque chose qui dérive, voilà, dans un autre monde.
Elisabeth de Feydeau, beaucoup d'autres histoires de parfums à savourer dans votre beau livre, La grande histoire du parfum, qui est édité chez Larousse. Est-ce qu'on peut parfumer son masque? C'est la question que j'ai envie de vous poser dans un instant. Et avec quelle senteur? Restez avec mon invité. Moi, sur France Bleu, on écoute de la musique, téléphone. C'est vrai qu'on a l'impression de vivre un peu dans un autre monde. En ce moment, on écoute un autre monde sur France Bleu.
Lui.
téléphone. C'est culte sur France Bleu, un autre monde.
Minute papillon, on en apprend tous les jours sur France Bleu.
J'ai un ami qui commence à sentir le vieux. Ça y est, on est arrivé au moment où t'as des potes qui commencent à sentir la vieille valise. Du coup, je me suis dit, mais moi aussi, je sens le vieux. Alors, je suis allée voir sur Internet. Il y a effectivement une histoire d'hormones qui se déclenche à partir de 35-40 ans, qui signale qu'on est plus bonne à fertiliser. Nos cellules libèrent une espèce de petite odeur, comme ça, qui se marque de plus en plus avec l'âge et qui tourne un petit peu au rang. Tu sens la vieille binouse pourrie. Et ça va? Pour l'instant, moi, j'ai pas l'impression que je dégage cette odeur. Mais bon, heureusement, les vidéos ne sont pas encore en odorama. De toute façon, quand ce sera en odorama, je tricherai. Je mettrai une odeur de jeune pour appâter le chaland.
Elisabeth Buffet, l'humoriste, et son odeur de vieux, j'y avais jamais pensé, mais c'est à ça que ça sert aussi les humoristes. Nous, on pense aussi à ces odeurs qu'on a du mal à sentir, ou cette odeur du masque qui peut nous déranger. Elisabeth de Fedeau, vous êtes historienne experte du parfum. Est-ce qu'on peut se parfumer? Déjà, est-ce que vous avez l'impression que les gens se parfument moins depuis qu'on porte des masques?
Alors, c'est ce qu'on nous dit, en tous les cas, dans les enquêtes, hein, ouais. Dans les études qui ont été faites, effectivement, les gens ont tendance à moins se maquiller et moins se parfumer. C'est-à-dire que c'est peut-être une tendance générale du confinement et du déconfinement, où on est un petit peu finalement hors de nos zones de confort.
Hein. Et puis on a l'impression de plus sentir non plus avec ce masque, Elisabeth.
Alors, on sent plus les autres, c'est vrai. Et puis on sent aussi
on se sent bien soi.
Un peu comme dans le sketch, si vous voulez. C'est pas toujours très agréable.
Et on
c'est
sent vrai, son moi... haleine, il faut le dire.
Voilà, il faut le dire.
C'est ça permet de vérifier régulièrement, c'est pas si mal.
Exactement. Et moi, ça me fait penser nos masques à, vous savez, l'habit du médecin, du parfumeur d'ailleurs, qui était l'habit de Charles Delorme, inventé par Charles Delorme, qui était le médecin Louis XIII. Et à l'époque où il y avait encore des épidémies, il y avait beaucoup d'épidémies, notamment au XVIIe, XVIIIe siècle, épidémies de peste, le parfumeur avait un rôle civique qui était d'aller désinfecter les lieux où il y avait eu des cadavres, où il y avait eu donc l'épidémie avait sévi particulièrement, et il avait cet habit de cuir qui le protégeait des miasmes, et notamment un masque qui avait la forme d'un long bec, un peu comme un oiseau.
Oui, on voit ça, bien sûr.
Et alors c'était très ingénieux parce qu'au bout du bec il y avait des parfums. Des parfums assez forts, camphrés bien sûr, des térébintes, certaines épices qui à la fois permettait de, pour lui de sentir des bonnes odeurs, mais aussi le protégeait des microbes.
Le camphre et les térébintes, c'est quoi? C'est ça?
Alors, ce sont des matières premières de, ouais, la parfumerie, ouais, qui sont antiseptiques, si vous voulez, naturellement. Par exemple, l'encens, la première fonction de l'oliban, ce qu'on appelle l'oliban, qui est la résine, donc nous on appelle encens, c'est la purification, c'est l'antiseptique. Et c'est ça qu'il faut pas oublier, c'est que en fait, toutes ces matières premières qui sont aujourd'hui toujours dans nos parfums, avait comme rôle premier d'être un rôle physique et soit antiseptique, soit revigorant, soit tonifiant, etc. Vous voyez, mais il y avait toujours un rôle physique et très souvent, malgré tout, un rôle avec les microbes, avec les miasmes.
Est-ce qu'on peut parfumer ces masques aujourd'hui, Elisabeth de Fedeau, et comment les parfumer? Comment retrouver cette bonne odeur puisqu'on ne peut plus sentir le sillage de l'autre? Oui. C'était agréable quand on faisait la bise ou même qu'on s'approchait
les uns des autres. Il y a plusieurs façons de le faire. Tout simplement, vous prenez votre parfum, vous vaporisez régulièrement avec votre propre parfum.
Mais l'intérieur, c'est un peu agressif, non, pour le...
Non, si vous le faites suffisamment discrètement, enfin, il faut évidemment pas l'imbiber, ouais, mais au contraire, ça peut être... Ou alors le parfum de la personne que vous aimez, ça peut être aussi une jolie façon de l'avoir après de soi.
Comme un petit doudou.
Comme un doudou, voilà, ouais, exactement. Pour les enfants, par exemple, vous voyez, on pourrait leur imaginer ça. Ou aussi, pourquoi pas mettre des parfums officinaux, enfin des matières premières qui sont bonnes pour la santé, un peu comme quand vous respirez, vous savez, quand vous avez le nez bouché,
oui,
vous respirez des notes qui sont bonnes pour la santé ou bonnes pour les maux de tête,
l'eucalyptus,
etc.
Parfois,
alors l'eucalyptus, le camphre,
ah,
justement,
le camphre, bien sûr,
qui,
ouais,
qui est très utilisé en pharmacopée asiatique.
On achète ça comment, Elisabeth de Fedeau, et où?
Bah, dans des herboristeries.
Ouais.
Moi, je pense, vous trouvez ça dans des,
et c'est sous quelle
des
forme
matières premières, bah, des huiles essentielles.
D'accord.
Vous mettez soit directement des huiles essentielles, vous pouvez faire votre petit mélange.
Attention, c'est un peu allergène, hein, les huiles essentielles.
Alors,
pour les personnes,
oui,
qui ont des problèmes respiratoires, absolument, les enfants.
Il,
ouais,
faut faire attention, mais vous pouvez aussi utiliser des huiles essentielles qui existent dans le commerce et qui sont déjà des mélanges tout à fait appropriés, ou en discrétion, vous vaporisez votre propre parfum ou le parfum d'une personne que vous aimez ou des parfums que vous aimez tout simplement et que vous avez envie de sentir, c'est plus agréable que de sentir son haleine.
Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que ce parfum, il a une histoire incroyable. Dernière question, il est très mal vu au Moyen-Âge. Pour quelle raison ?
Alors, il est très mal vu parce que justement, le Moyen-Âge commence avec la fin de l'Antiquité, la chute de l'Empire romain d'Occident. Donc, on est en 476, 5e siècle après Jésus-Christ. Et on en est tellement sorti de ces orgies romaine, que le parfum est associé à cette décadence et à tout ce qui est aussi frivole et la séduction et tout ce que l'Église finalement condamne.
On revient dans le droit chemin.
On revient dans le droit chemin, mais attention, le parfum reste toujours là pour parfumer, enfin pour élever les prières dans les églises et aussi comme antiseptique. Et rappelez-vous que dans les monastères, on trouve le jardin des simples, les simples voulant dire les remèdes, et les remèdes sont constitués de plantes officinales, comme l'eau de Cologne bien plus tard.
Merci beaucoup Elisabeth de Feydeau, c'est passionnant, on peut trouver toutes ces histoires sur votre compte Instagram et dans ce très beau livre, La grande histoire du parfum chez Larousse, c'est vraiment un livre magnifique, enfin bref, il faut vous y plonger, on sent tous les parfums et les histoires du monde, à très bientôt dans Minute
Merci.
Papillon.
Merci
on écoute
beaucoup Sidonie.
Tout de suite Master Kadji, Jérusalem en voyage encore sur France Bleu.
Jérusalem, Ondolose, uhambe nami, zungangishilana, Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana, dauyami, alikulana. So a mi aukulana Ilo no lo se Zuhambe na mi Dao ya mi aikulana Buso a mi aukulana Ilo no lo se
Né sur TikTok, on ne cesse de danser dessus, c'est Jérusalem. Master Kadji sur France Bleu. Et puis c'est la fin de Minute Papillon. Si vous avez aimé l'émission, eh bien parlez-en autour de vous déjà. Et puis d'autres aventures à découvrir sur francebleu.fr. On se retrouve demain à 14h. On va accueillir Marc Lévy qui nous parlera des hackers qui font le bien. Il a enquêté sur le sujet. Et puis vous découvrirez aussi ce qu'il faut manger pour être en bonne santé avec quelques révélations. À 15h, après les infos, vous retrouvez Églantine Émeillé. C'est déjà demain. Belle émission à toi, Églantine.
France Bleu aime la musique live en français dans le texte. Résiste.
Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde.
retrouvez Résiste de France Gall dans la playlist de France Bleu Part en Live. France Bleu Part en Live. 1800 secondes de musique live en français dans le texte, chaque soir de la semaine sur France Bleu dès 22h.
France Bleu aime le cinéma. 1863, États-Unis d'Amérique. Un convoi en route vers l'Oregon.
Qui va conduire le chariot?
Moi, je veux bien conduire le chariot. Je peux apprendre.
Ne raconte pas d'âneries, jeune fille.
Indépendante et incomprise, la jeune Martha Jane doit fuir le convoi dont fait partie sa famille.
Je n'aurai jamais une telle tenue dans notre communauté.
Commence alors l'aventure de la plus célèbre femme de l'Ouest.
On m'appelle Calamity. Calamity Jane.
Calamity Jane, à découvrir en famille, actuellement au cinéma. La bande-annonce sur francebleu.fr.
France Bleu.
Ceci est un message de l'établissement français du sang. En raison de la Covid-19, le niveau des réserves de sang est exceptionnellement bas. Depuis plusieurs mois, la crise sanitaire mobilise l'ensemble des personnels de notre système de santé. Nous les avons applaudis. Plus que jamais, nous les soutenons. Aujourd'hui, c'est à votre tour de prendre le relais en donnant votre sang. Pour savoir où donner, rendez-vous sur notre site internet.
Vous êtes bien sur France Bleu. Je vous souhaite une très très belle après-midi. Merci de votre fidélité, France Bleu. Il est 15h, un point sur l'actualité avec la rédaction de France Bleu.